Alors bonjour à tout le monde. J'aimerais commencer par souhaiter la bonne fête à toutes les mamans, c'est la fête des mères, toutes ces femmes sans profession. Je leur souhaite une belle journée. Alors sans, pas S-A-N-S, hein, C-E-N-T, parce que d'avoir des enfants, c'est du boulot. Hein. Je sais que c'est une bénédiction, mais c'est du travail. Alors bonne fête à vous. Et aussi bonne fête à ma femme, parce qu'aujourd'hui, elle a 31 ans, le 13 mai. Alors voilà. Mais je crois que pour les femmes, il y a le droit de dire leur âge jusqu'à 35 ans, je crois, dans les mœurs du dictionnaire des femmes, non? Et bienvenue à leurs parents qui sont venus hier du Kentucky. Alors voilà, on est tous la famille, mon frère, ma maman, je suis très content. Alors voilà, donc nous allons commencer le message, je vais commencer le message par ces quelques phrases. Le texte que nous allons voir ce matin est vraiment très riche et il renferme une quantité de trésors extraordinaires qu'il n'est absolument impossible de tout ressortir. Toutes les perles de vérité que j'ai pu étudier, et ceci qu'à mon niveau. Hein. Alors je voulais quand même vous le dire avant, parce que vous allez probablement sentir de la frustration durant le message, parce que c'est un sujet qui est fabuleux, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire, mais pendant que le temps qu'il m'est imparti, j'aimerais partager ce texte avec vous. Alors j'ai intitulé le message « La supériorité de Jésus-Christ ». Donc le contexte, nous allons nous plonger dans le contexte parce que c'est toujours important d'avoir la raison pour laquelle cette épître a été rédigée, par qui, dans quelles circonstances et également. Permettez-moi de vous apporter quelques éléments. Alors, Paul, déjà, en est l'auteur. Effectivement, il était assez facile de déceler l'auteur car il est écrit au chapitre 4 du verset 18 « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main ». Donc cette lettre détient également la lettre dite de captivité car au moment de sa rédaction, l'apôtre était en prison dans la mégapole de Rome. Si vous lisez acte 28 au verset 16. Cette lettre est adressée à un cercle de lecteurs bien précis puisqu'il s'agit d'une église à Colosse. Voilà la carte. Alors pour vous indiquer, donc pour vous donner une situation géographique où est Colosse, c'est en une province romaine d'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie aujourd'hui. Elle se trouve à peu près à 160 km à l'est d'Éphèse, qui est en Turquie. Éphèse, d'ailleurs, c'est un site très merveilleux à visiter, si vous avez l'occasion, avec ses vestiges immobiliers reconstruits, ses ruines impressionnantes. Donc voilà, là c'est la carte, on voit où est Colosse. Alors la population à Colosse se composait à grande majorité païennes, mais il s'y trouvait tout de même une implantation juive assez conséquente. Et Paul écrit cette lettre aux alentours de l'an 60 de notre ère, pour plusieurs raisons, et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous les énumérer, car de ces raisons, nous allons comprendre très bien ce qui a poussé l'auteur à écrire ce qu'il va écrire. Alors en effet, l'église à Colosse a vu le jour par son fondateur Épaphras. C'était un Colossien qui s'était converti à Éphèse pendant un séjour. Et sachez que Paul a passé 3 ans à Éphèse, donc il s'était probablement converti lors d'une de ses prédications. Et ensuite, il est retourné chez lui, Épaphras, et a fondé l'église à Colosse, en grande ligne. Hein. Par contre, le mélange juif et païen avait vite entraîné plusieurs fausses doctrines. Et Paul, en ayant été informé par Épaphras lui-même, s'est vu dans l'obligation de lutter contre ces hérésies qui commençait à infiltrer l'Église sérieusement. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est que les cultures grecques à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque, là je parle, ils s'enorgueillissaient de la complexité de leur message philosophique. Alors beaucoup d'entre eux méprisaient le message de l'Évangile, pourquoi? Parce qu'ils le considéraient comme trop simpliste. Et d'ailleurs, l'apôtre nous dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc ils étaient en constante recherche de nouvelles philosophies, de nouvelles idées, de nouveaux prédicateurs, et surtout des personnes qui maîtrisaient la capacité de parler en public. C'est pour ça que Paul écrit, écoutez, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis venu vous apporter ces mots. Pour ces philosophes, notamment à Colosse, Jésus-Christ seul n'est pas suffisant pour le salut. Il s'appuie alors sur des visions, ces Colossiens, qu'ils prétendaient avoir, ou qu'ils avaient peut-être, ça c'est à savoir, à voir. Donc c'était des visions comme fondement de leur connaissance. Nous lisons au chapitre 2, verset 18. Paul qui écrit « Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef. » Donc Paul répond à cela, au culte qu'il dédiait aux anges, on va le voir dans quelques instants, que c'était des visions qui dépendaient en fait des œuvres charnelles. Et point très intéressant, cette prétendue connaissance atteindra son point culminant au IIe siècle, connu sous le nom du gnosticisme. Alors le mot grec gnosis veut dire connaissance. Alors bien que l'hérésie colossienne soit différente du gnosticisme actuel, si vous l'étudiez, vous y retrouverez beaucoup de concepts, de préceptes semblables. Alors je vous dis en quelques mots ce que c'est. Cette doctrine enseignait que Dieu est bon, mais en fait la matière est mauvaise. Alors étant donné que le Dieu bon n'aurait pas pu créer une matière mauvaise, les faux docteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils postulent une série d'émanations descendantes à partir de l'être divin. Et c'est une des moindres émanations, et très éloignée de Dieu, qui aurait créé la matière. Malheureusement, dans un tel système, Jésus n'est qu'une émanation. Il fait partie en fait des bonnes émanations ou des anges, par opposition aux démons. Ces démons d'ailleurs qui forment une barrière entre les hommes et Dieu. Et elle peut être franchie qu'à l'aide d'une connaissance supérieure, doublé de l'assistance des bonnes émanations. Ainsi, on rend un culte aux anges parce que leur aide est précieuse au salut. Alors voilà en gros. Donc, les Colossiens, avec cette hérésie, nient un, la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. C'est pour ça que, par exemple, Paul écrit, vu que Dieu ne peut pas s'incarner en homme, vu que la matière est mauvaise, il nie ses vérités. Mais Paul écrit, par exemple, au verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Donc il lutte contre cette hérésie. Et également, finalement, cette hérésie nie que l'œuvre de Christ soit pleinement suffisante pour le salut. Et Paul, va, pendant tout l'épître, va défendre la doctrine de Jésus. Je peux vous donner tous les passages, mais 1.28, 2.3, 2.9, pourrez me demander tout à l'heure si vous avez des questions pour ceux qui prennent des notes. Alors, vous rajoutez déjà par-dessus toutes ces confusions des enseignements judaïques légalistes. Par exemple, l'absolue nécessité à la circoncision pour le salut, maintenir les lois alimentaires vétérotestamentaires, c'est-à-dire relatifs à l'Ancien Testament. On a un très bon exemple dans Colossiens 2, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une nouvelle d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Et en fait, tout ceci englobait un ascète très très rigide. Vous connaissez sûrement, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc, les Colossiens cherchent la connaissance supérieure au salut, alors qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 3 au chapitre 2, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ils rendent un culte pensant que les êtres angéliques peuvent les aider à accéder au salut, alors que Paul dit que les croyants sont complets en Christ. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et finalement, ils pratiquent l'ascétisme et observent les jours sacrés juifs, alors que ces choses ne sont que l'ombre, tandis que Christ en est la substance. Alors maintenant, la raison de l'épître, voilà c'est tout, la raison de l'épître, Épaphras, étant si préoccupé par ses faux enseignements, décida de se rendre à Rome, malgré la distance, et parler à Paul de ce qui se déroulait dans la vie de l'Église. Sur ces informations, Paul va écrire l'épître aux Colossiens que nous avons maintenant, aujourd'hui, devant nous. Alors petite note, Épaphras a pu rendre visite à Paul assez facilement. Pourquoi? Car si vous lisez Acte 28, verset 16, là où nous savons où il était arrêté, il est écrit « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. » Donc ce n'est pas un des cachots dans lequel le prisonnier était directement attaché au soldat romain, comme certaines situations dans lesquelles il s'est trouvé, qui étaient bien plus pires que celle-ci. Il avait une certaine manœuvre de liberté. Donc, avec tous ces éléments en tête, nous avons le contexte dans lequel Paul rédige cette merveilleuse lettre qui servira aux chrétiens à Colosse à corriger leur comportement et également aux générations futures jusqu'au retour de Jésus-Christ.
Après cette
introduction, nous allons nous concentrer sur juste une partie de l'épître qui traite de la divinité de Jésus, de sa supériorité. Alors les versets 15 à 19, dans le flyer c'était écrit 1 à 23, Colossiens 3, je ne sais pas du tout comment ça arrivait là. Mon texte traite de Colossiens 1, 15 à 19. Hein. Et les quelques versets que nous allons aborder maintenant comptent parmi les passages de la Bible les plus percutants, les plus profonds, les plus clairs, les plus puissants qui parlent justement, qui traitent de la divinité de Jésus-Christ. Paul va écrire une extraordinaire vérité sur le statut du Fils de Dieu. Alors lisons Colossiens 1, 15, 19. Colossiens 1, 15, 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Donc, premier grand point. Alors, tu peux appuyer. Alors, il y a plusieurs. Donc, ça, c'est un grand point. Jésus-Christ par rapport à Dieu. Et vas-y encore. Et j'ai divisé donc les versets par chiffres et par lettres. Parce qu'il y a tellement. Et j'ai voulu faire ça. Donc, on va commencer par le verset 15. Ah, tous les versets seront écrits. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alors, comme je l'ai mentionné auparavant, les hérétiques considèrent Jésus comme un des nombreux esprits inférieurs qui émanent de Dieu dans un ordre décroissant, d'accord ? Mais Paul va réfuter cela par deux puissantes descriptions du statut de Jésus, de son identité. Alors premièrement, il le décrit comme l'image du Dieu invisible. Et le mot grec pour image, c'est le mot « écon ». Nous avons le mot en français « icône », d'accord ? Et l'icône, par exemple, est utilisée dans le livre de Matthieu 22-20, pour désigner l'effigie de César sur une pièce de monnaie, et également dans l'Apocalypse 13-14, pour désigner l'image de l'Antéchrist. Alors, maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais l'homme n'a-t-il pas été également fait à l'image de Dieu ? Alors, très bonne question. Bien que l'homme soit l'icône de Dieu, nous retrouvons ce terme dans 1 Corinthiens 11-7, et également dans Genèse 1-26-27, au moment de la création de l'homme. Il n'est pas l'image parfaite de Dieu. Les humains ont été créés à l'image de Dieu en ce que nous avons une personnalité rationnelle. D'accord ? Alors, comme Dieu, nous sommes dotés d'une intelligence, de sentiments, de volonté, grâce auxquels nous pouvons penser, calculer, choisir. Au contraire, par exemple, des animaux qui ont des caractéristiques qui leur sont propres, un instinct. Nous sommes dotés d'une personnalité rationnelle. Toutefois, nous, les humains, nous ne sommes pas à l'image de Dieu moralement. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'il est déjà, il est saint, et nous on est, désolé maman je vais le dire, on est pas saint, on est pécheur. Tu n'aimes pas quand je dis ça, hein ? on est pécheur, ça fait... Mais voilà, il est saint et nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu, à l'image en essence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a des attributs qui sont incommunicables. Par exemple, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, l'immuabilité. Je pense que la plupart d'entre vous savent, c'est juste pour nommer quelques attributs, savent ce que c'est. Mais voilà, nous n'avons pas ces essences divines. Et en plus, la chute a altéré l'image originale de Dieu en l'homme. Par exemple, avant la chute, Adam et Ève étaient innocents, exempts de péché et incapables de mourir. Mais ils ont renoncé à ces attributs le jour où ils ont désobéi. Et de nombreuses choses merveilleuses qui se passent au moment d'une conversion, lorsqu'un quelqu'un place sa confiance, sa vie en Christ, il est l'objet donc de la promesse selon laquelle Dieu restituera cette identité. Regardez, Romains 8, 29, il est écrit, Romains 8, 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu purifiera complètement les croyants pour les rendre semblables à Christ quand ils entreront dans la phase finale de la vie éternelle. » Mais ceci, c'est un autre message. Alors, revenons à Jésus-Christ. Il est l'image parfaite et absolue, exacte de Dieu. Alors très important, il n'est pas devenu l'image de Dieu lors de son incarnation, mais il a été de toute éternité. Christ, en fait, reflète les attributs de Dieu, tout comme le soleil, la lumière du soleil reflète le soleil. Il est écrit dans Hébreux 1.3 qu'il est l'empreinte de sa personne. Hébreux 1.3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et le mot empreinte, en grec, est le mot caractère. Donc nous retrouvons beaucoup de termes qui s'associent à cela. Et également dans Philippiens 2, au verset 6, qui parle de Jésus, de son incarnation, le fait qu'il est devenu un homme, qui s'est humilié pour nous. Il est écrit, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc encore une fois, il le dit. Mais c'est pour ça que Jésus, pendant tout son ministère, a pu faire des déclarations, comme dans Jean 14-9. Si vous lisez Jean 14-9, il est avec ses disciples, et il y en a un, qui s'appelle Philippe, qui lui pose une question. Il lui dit, « Maître, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. On croira. » Et Jésus lui dit, « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Il a également dit, Jean 1-14, « La parole qui s'est faite chair, la parole est Dieu, s'est faite chair, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et c'est tout ce qui, c'est le témoignage de sa vie qu'il a voulu transmettre à toutes les personnes, et les gens l'ont très très bien compris. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent à des leaders religieux dans Jean 10, et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Ils avaient pris des pierres pour le lapider. Les gens lui disent, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors voilà le message. Pourquoi Paul a écrit « Le Fils est l'image du Dieu invisible » car Dieu s'est fait chair en son Fils Jésus-Christ. Il est venu et c'est le témoignage unanime de l'Écriture. Verset 15b. « Le premier-né de toute la création. » Alors, Paul le décrit comme « premier-né de toute la création ». Alors, immédiatement, ce verset est sans doute le plus utilisé depuis les Ariens de l'Église primitive jusqu'aux témoins de Jéhovah des temps modernes, qui trouve dans ce verset, malheureusement, qui s'appuie dans cette expression, pour nier la divinité de Jésus et pour dire que Jésus est un être créé. Malheureusement, comme c'est la particularité de nombreuses sectes ou autres, ils sortent les vérités en dehors du contexte et ne prennent pas du tout le vrai sens du mot « prototokos » qui est utilisé dans ce terme, qui veut dire « premier-né ». Alors, je vais vous aider un petit peu ce que ça veut dire exactement. « Prototokos » peut désigner un premier-né chronologiquement parlant. Marie, dans Luc 2,7, a eu un enfant, elle a eu son prototokos, son premier-né. Mais il désigne essentiellement la position ou le rang. Alors, dans les cultures grecques ou juives, important à savoir, le premier-né était le fils qui avait le droit à l'héritage. Il n'était pas forcément né le premier. Nous avons un très très bon exemple, Ésaü, par exemple, est né le premier, mais c'est Jacob qui a eu droit à l'héritage. Jésus est celui qui a le droit à l'héritage de toute la création. Hébreux 1, 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toute chose, et par lui, il a aussi créé l'univers. Également dans Apocalypse 5, 13, qui dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Amen. » Dans Exode 4, 22, Jérémie 31, 9, Israël est désigné, par exemple, comme le premier-né. Alors, ce n'est pas les personnes qui sont nées le premier, mais les Israélites occupaient la première place aux yeux de Dieu parmi toutes les nations. Un autre exemple, pour vous bien vous faire comprendre, le psaume 89, verset 8. C'est une merveilleuse prophétie sur le Messie, une prophétie messianique. Psaume 89, 28, qui dit « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Donc, encore une fois, on retrouve le fait qu'il n'est pas le premier-né chronologiquement, mais le fait qu'il est premier-né, qu'il a le droit à tout l'héritage. Et Jésus est même le premier-né par rapport à l'Église. Vous vous souvenez, Romains 8, 29, que je viens de vous lire, je vais vous le relire. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Donc, dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le premier-né désigne clairement le rang, en fait, le plus élevé. Par le fait d'être né le premier, il est celui qui a le droit à l'héritage. Et voilà ce que Paul, en utilisant « premier-né de toute la création », veut dire « toute la création lui est due ». Voilà, normal, vous me direz, il a tout créé. Prochain grand point, Christ par rapport à l'univers. Verset 16a. Voilà, donc tous les versets suivent. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Alors, Paul donne trois raisons pour la primauté de Jésus sur la création. Alors, premièrement, il est le Créateur. Premièrement, il est le Créateur. Jean 1, 3. Donc, en parlant de la parole est Dieu. Toutes choses, verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Très important. Hébreux 1, 2, comme je viens de vous lire, hein, je peux vous le relire si vous voulez, qui dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, il l'a rétié et par lui, il a créé l'univers. » Donc, Dieu a tout créé. Regardons autour de nous quelques instants toute cette création qui nous entoure. La nature, les océans, tous ces milliers d'espèces différentes d'animaux, les forêts, les montagnes, les déserts, les cours d'eau, ces étendues à perte de vue de flore, etc., etc. Si nous arrondissons un petit peu, par exemple, sur l'univers, parlons un petit peu des dimensions, des distances, quelques chiffres. Le Soleil, par exemple. Le Soleil possède un diamètre de 1 390 000 km, soit 100 fois supérieur à celui de la Terre. Il pourrait contenir 1,3 million de planètes. L'étoile Bételgeuse, une autre étoile, possède, elle, un diamètre de 160 millions de kilomètres et elle brille autant que 100 000 soleils. Son diamètre est aussi grand que celui de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et l'étoile Bételgeuse, figurez-vous, elle est tellement loin que la lumière du Soleil met plus de 4 ans à l'atteindre. Et la vitesse de la lumière se déplace à exactement 300 000 kilomètres seconde. La lumière du Soleil met 8,5 à venir à la Terre, donc si vous faites un petit calcul, le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Eh bien, figurez-vous que l'étoile Bételgeuse de la Terre se trouve, avec les données que je viens de vous donner, à 4,3 années-lumière. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ce qui est fou, c'est qu'on constate la puissance du Créateur. Et là, je vous ai donné un petit exemple de pas de rien du tout, mais une poussière dans l'univers. On voit la puissance du Créateur. Mais ce qui est aussi formidable, c'est qu'on voit la sagesse du Créateur. Et les scientifiques appellent ce principe le principe de l'anthropique. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, avant le message, je ne connaissais pas. Mais je vais vous lire la définition, parce que moi, ça me dépasse. Phénomène de l'anthropique. L'énergie solaire transmise par rayonnement rend possible la vie sur Terre par apport d'énergie thermique et de lumière, permettant la présence d'eau à l'état liquide et la photosynthèse des végétaux. La polarisation naturelle de la lumière solaire après diffusion ou réflexion par la Lune ou par des matériaux tels que l'eau ou les cuticules végétales est utilisée par de nombreuses espèces pour s'orienter dans l'espace. Le rayonnement solaire est aussi responsable des climats et de la plupart des phénomènes météorologiques observés sur notre planète. En effet, le bilan radiatif global de la Terre est tel que la densité thermique continue à être émise dans l'espace sous forme de rayonnement thermique infrarouge, la Terre restant ainsi en équilibre dynamique parfait. En bref, la vie sur Terre est calculée au millimètre près. Vous changez une petite chose dans tout le schmilblick et on n'existe plus. Là, on voit la sagesse du Créateur. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le psaume 19, a dû écrire, dans le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça, je vais vous dire un truc peut-être choquant, mais le témoignage de la nature à son créateur est si clair que ce n'est pas par une incrédulité involontaire que les hommes le rejettent. Alors, ce n'est pas moi qui dis, c'est Romains 1. Romains 1, 20 est le parfait exemple. Pourquoi ? Paul nous dit ça. En effet, les perfections invisibles de Dieu, et là, il va en citer deux, sa puissance éternelle et sa divinité, donc ça englobe déjà pas mal, se voient comme à l'œil nu, c'est-à-dire depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc on peut regarder à toute cette nature qui nous entoure et dire, mais c'est pas possible, il faut qu'il y ait un architecte, il y a quelque chose, il y a une force, il y a quelqu'un. D'ailleurs, c'est la déduction de Einstein qui a dit, il y a un créateur, forcément, mais on ne peut pas le connaître. Il avait presque raison, il y a un créateur, mais on peut le connaître. Mais voilà que Jésus a tout créé pour ce verset. Prochain point, Jésus-Christ par rapport au monde invisible. Verset 16b, les visibles, les invisibles. Alors, les visibles, donc vite fait, désignent ce que Paul vient d'énumérer, c'est-à-dire tout le monde physique, hein, ce qui est perceptible à l'œil ou au toucher. Et les invisibles, nous allons le voir dans quelques instants, il va le dire, trône, dignité, domination, autorité, indiquent en fait les diverses catégories d'anges. Alors, loin d'être un ange, comme les hérétiques de Colosse l'enseignaient, Christ a créé les anges. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, par exemple, en fait une distinction si vous lisez Hébreux 1, 7, 8, 9, 10. Je peux vous lire quand même un petit verset, parce qu'il y a tellement. Hein. Mais Éphésiens 1, 21, il est écrit... En le faisant asseoir à sa droite, en parlant de Jésus, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, ce qui nous mène donc au prochain point, verset 16, c'est trône, dignité, domination, autorité. Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est important, mais ce n'est pas la clé du texte. Mais brièvement, ces termes désignent en fait, comme je l'ai dit, la catégorie, les catégories d'anges. Alors, nous savons qu'il y a des anges. Pourquoi ? Parce que Jean l'a vu dans Apocalypse 5, 11, et il a fait une réflexion. Il a dit, il dira, j'en ai vu des myriades de milliers, de milliers. C'était un nombre inestimable, incalculable, tellement grand qu'il ne pouvait pas les nommer. Il a dit un terme myriade, c'est-à-dire des milliards, je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Et il rajoute des milliers de milliers pour dire qu'il y en avait beaucoup. Et nous savons que dans ces anges, il y a une hiérarchie très claire, que les anges soient saints ou déchus. Un ange fait partie d'une hiérarchie très bien structurée. Vous lisez Ésaïe 6 au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Par exemple, c'est un archange, Gabriel, qui est allé rendre visite à Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte du Messie. Et donc, voilà, très simplement, il y a un système hiérarchique, et Paul, dans notre texte de Colossiens, il fait simplement référence. Mais il fait exprès quand même d'y faire référence, que Jésus est au-dessus des anges, vu l'importance et la gloire que les Colossiens accordaient à ces anges. Et Paul, en écrivant cela, stipule très clairement que Jésus n'est ni une émanation, ni un être angélique, mais qu'il a bel et bien lui-même créé les anges et qu'en plus il domine sur eux. Éphésiens 3, 10, qui dit « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu ». Et si vous lisez également dans Apocalypse 5, au verset 12, il disait d'une voix forte, en parlant donc des anges, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc en plus, il le loue. Donc voilà où Paul veut en venir en déclarant toutes ces vérités. Prochain verset, verset lettre. « Tout a été créé par lui » et pour lui. Alors, pour cette déclaration, je vais laisser parler la Bible. Non, ça c'est bizarre. Je laisse parler la Bible tout le temps. C'est juste que je ne vais pas faire de commentaires. C'est le travail du prédicateur, c'est quoi ? c'est de prendre, c'est comme un serveur dans un restaurant. Il va dans la cuisine, il prend le plat que le chef a préparé, il l'amène à la table, comme ça, du client, sans froisser tout ce que le cuisinier a fait. Voilà le rôle, donc très très grande responsabilité, mais c'est un privilège extraordinaire. Mais écoutez, tout est écrit par lui et pour lui, verset 16d, je vais vous lire un autre passage dans Romains 11, 33-36, il est écrit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors Jésus, donc, est Dieu. Il a créé l'univers matériel, spirituel, pour son plaisir, pour sa gloire et pour le plan divin. Verset 17a, « Il est avant toute chose. » Alors maintenant, on revient un petit peu dans le terme, dans la section création. Deuxième raison de la primauté, je vous avais dit qu'il y en avait trois. Deuxième raison de la primauté de Jésus sur la création, il est avant toute chose. C'est-à-dire, quand l'univers a vu le jour, il existait déjà. Jean 1.1 nous le dit, ou 1 Jean 1, donc la parole était déjà là et elle a tout créé. Il dit même aux chefs religieux, vous savez dans Jean 8.58, il dit « Avant qu'Abraham fût, quoi ? Je suis, exactement. » Et par exemple, dans Michée 5, commentaire assez intéressant, Michée 5.1, vous connaissez Michée 5.1, c'est la prophétie dont parle le lieu de la naissance du Messie. Le roi Hérode, il savait où est-ce qu'il va naître, parce qu'il avait lu l'Ancien Testament, il le saurait. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, écoutez cela, et dont les activités remontent aux temps anciens. » Et un autre verset dans Apocalypse 22, 13, Apocalypse 22, 13, qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement. » Et la fin. Quiconque existe avant le commencement des temps, lors de la création, est forcément éternel et Dieu est éternel. Il dit « Je vis d'éternité en éternité » comme le relate le prophète Ésaïe. Verset 17b, « Toute chose subsiste en lui. » Alors la troisième dernière raison de la primauté de Jésus sur la création est que toute chose subsiste en lui. Non seulement il a créé l'univers, mais en plus, il soutient tout. Hébreux 1, 3, souvenez l'empreinte de sa personne, le caractère. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Alors, sans rentrer dans trop de détails, parce que c'est un très très gros sujet, c'est important on voit par ces versets que Jésus a créé l'univers et en plus il soutient tout. Et à souligner dans vos Bibles, en rouge, il soutient tout par sa parole puissante. Et on ne peut que se rappeler du premier chapitre du livre de la Genèse, de la création. Regardez Genèse 1. Genèse 1. Au moment de la création, Dieu parle et les éléments prennent vie. Dieu dit et il se passe et tout se crée. Par exemple, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Un autre exemple, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Un autre exemple, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et verset 26, finalement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc encore une fois, il crée par sa parole et il soutient tout par sa parole. Faisons, c'est intéressant parce que c'était déjà une référence à la Trinité. Alors, voilà toutes les vérités, toutes les vérités que j'ai pu ressortir que je peux partager avec vous jusqu'à maintenant. Alors voilà, je ne sais pas si vous la sentez un petit peu, cette frustration, parce qu'on pourrait vraiment en parler pendant des heures sur un sujet aussi, aussi merveilleux. Mais voilà, le temps avance et puis je voulais quand même vous annoncer ceci. Jésus-Christ par rapport à l'Église maintenant. Ah, prochain point, verset 18a. Voilà, il est la tête du corps de l'Église. Alors dans le verset 18, Paul va présenter quatre grandes vérités, si vous voulez, au sujet de la relation de Christ avec l'Église. Alors on va voir la première. Alors, il faut savoir que l'Église, l'Écriture, toute la Bible, utilise de nombreuses métaphores pour décrire l'Église. Par exemple, elle l'appelle une famille, un royaume, une vigne, un troupeau, un édifice, une fiancée. Mais la métaphore la plus connue, relatée que dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien, c'est celle du corps. L'Église est un corps et Jésus en est la tête. Alors ce concept n'est pas utilisé dans le sens d'un chef d'une entreprise, hein, attention, mais plutôt décrit l'Église comme un organisme vivant et Christ en contrôle chacune des parties et leur donne vie et direction. Alors, la vie, sa vie manifestée dans tous les membres assure quoi ? L'unité du corps, il fortifie et coordonne la diversité au sein du corps, une diversité par exemple de dons spirituels, de ministères, etc. Il dirige également la mutualité de ce corps pour que ses membres se servent et se soutiennent les uns les autres. Et c'est exactement le message qu'on a eu pendant, je crois, 5 semaines sur notre pasteur John pour les dons spirituels. Et il avait lu... Il avait utilisé comme texte en référence 1 Corinthiens 12. Et tout ce texte parle justement que le corps, l'Église est un corps, un organisme vivant, et Jésus dans la tête qui dirige chaque membre. Alors je ne vais pas vous lire tout le passage puisqu'il est long, mais ça parle vraiment qu'il y a des apôtres, des docteurs, des prophètes, des dons spirituels, etc. Mais en gros, verset 27, je peux peut-être vous donner ça. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc voilà, en gros, il est la tête du corps de l'Église, signifie. Verset 18b, deuxième point, il est le commencement. Alors, commencement ici était utilisé dans le double sens de source et de primauté. L'Église a son origine en Christ. Éphésiens 1, 4 nous dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est sa mort sacrificielle et sa résurrection qui nous procurent une vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit: quiconque est en Christ est une nouvelle créature, voici toutes les choses sont passées et tout est devenu nouveau. Comme tête du corps, Jésus occupe la position principale, le rang le plus élevé. Et en qualité de commencement, il en est donc à l'origine. Verset 18, c'est le premier-né d'entre les morts. Encore le terme prototokos, premier-né. Donc, de tous ceux qui sont ressuscités, il y en a eu avant, mais Christ est le plus élevé en rang. À cause de sa mort, de son sacrifice, sa résurrection, il a la prééminence sur toutes les résurrections. Si vous lisez Apocalypse 1.5, très très clair, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. 1 Corinthiens 15.20 nous donne aussi une très très bonne explication. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Paul veut vraiment argumenter que malgré toutes les personnes qui sont décédées avant, ce n'est pas ça la question, c'est qu'il est le premier d'entre les morts, c'est qu'il est prééminent sur tout. Et Romains, dernier verset, Romains 8, 29, car tous ceux qu'il a prédestinés être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères. Je l'avais déjà lu, mais ça nous remet en tête. Alors, Paul veut vraiment marquer le fait qu'il est prééminent sur tout, parce qu'il va finir au verset, donc il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà là où Paul veut amener, vraiment en parlant de la prééminence de Jésus, de sa supériorité. Et verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Alors, du dictionnaire, plénitude qui signifie totalité, intégralité. Paul écrit aux Colossiens pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'anges pour parvenir au salut. Ils ont tout pleinement en Christ et en lui seul. Et il dira un petit peu plus loin dans Colossiens 2, 9 et 10, écoutez ces beaux versets, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Donc voilà, Jésus est vraiment celui qui a la suprématie sur tous les éléments que nous allons voir. Alors comme conclusion, on ne peut qu'arriver normalement, si Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, on va la chanter, à la merveilleuse conclusion et la reconnaissance de la divinité du Seigneur et Sauveur à jamais, Jésus-Christ. Alors, il est la Bible, j'ai sorti quelques noms sur lui, écoutez ça, il est l'admirable, l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga, l'avocat, le berger, le chef et consommateur de la foi, le chemin, le commencement, le conseiller, la délivrance, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, le dominateur, l'époux, l'étoile du matin, l'éternel des armées, fils de Dieu, le fils de l'homme, le je suis, Jésus, juste juge, lion de la tribu de Juda, lumière du monde, maître saint et véritable, messie, oint, parole de vie, pierre angulaire, la porte, le premier-né, le prince de la vie, le prince de paix, prince des rois de la terre, rejeton de David, résurrection et vie, roi des rois, saint, sauveur, seigneur des seigneurs, seigneur tout-puissant, seigneur de tous, seigneur Jésus-Christ, solaire de la justice, soleil levant, souverain, souverain sacrificateur, le témoin véritable, la tête de l'église, la vérité, le véritable, la vie. Voilà tout ce que Christ est dans la Bible. Et Jésus nous appelle, t'appelle à te repentir de tes péchés parce qu'il t'aime. Et il t'aime tellement qu'il s'est donné pour toi sur cette croix. Je vois que maman, elle sourit, là, je t'ai vu sourire. Il s'est donné pour toi sur cette croix pour que tu aies la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'il t'offre le pardon des péchés. Cette vie éternelle, c'est quoi ? C'est une relation intime avec le Seigneur sur terre maintenant, mais intensifiée au ciel pour l'éternité, dans un lieu où il n'y aura plus quoi ? Ni cri, ni deuil, ni mort, ni larmes, ni pleurs, car les premières choses auront disparu. Et la chose à faire, parce que Jésus a fait tout le chemin pour venir à nous, il faut le confesser et lui demander pardon qu'il vienne dans nos cœurs. Il y a un verset très très connu dans Romains 19 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Mais il faut le confesser tel qu'il est, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Laisse-le prendre contrôle de ta vie, laisse-le prendre le gouvernail de ta vie et tu verras quel bonheur et quelle joie c'est de le connaître personnellement et tout ce qu'il a réservé pour nous. Alors voilà ce que je voulais vous apporter pour Colossiens 1, 15 à 19. Et j'ai fait fort, hein. Je parle un peu vite. Hein. Ouais, c'est pas grave. Mais on va prier, je vais prier puis après Alors Seigneur, merci infiniment pour ce culte. C'est ton culte, Père, nous voulons faire avec nos capacités humaines pour t'apporter un culte qui t'est digne, pour qu'il monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes dans notre chair, dans notre corps, mais nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons te glorifier chaque jour de notre vie. Et merci pour ces vérités extraordinaires sur le statut de ton Fils. Ça nous remet vraiment à l'ordre dans nos idées sur qui est Jésus-Christ. Dieu fait chair et on ne peut que l'exalter, être heureux de savoir que nous avons un Dieu tout-puissant qui est souverain, qui contrôle toutes choses. Et malgré les situations que nous pouvons passer, qui peuvent être difficiles, Dieu est au-dessus de tout nom et dirige toutes choses. Merci pour donc Colossiens 1, 15 à 19. Et transcende ces passages dans nos cœurs pour que nous les gardions en mémoire toute notre vie. Bénis toutes les personnes ici, peut-être qui ne connaissent pas encore le Seigneur personnellement, qui cherchent, ou peut-être bénis également ceux qui sont chrétiens, mais qui sont peut-être éloignés, je ne sais pas, c'est toi qui sais, tu es le bon berger, comme je l'ai lu dans tes identités. Merci infiniment pour tout ça, Père, et nous t'aimons, nous te louons, et à toi la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup.